continent. Avec Elgas.
L'Afrique, pas elle-même, et dans les courants du monde, continue de se dire et de s'écrire sur notre antenne. Bonjour, chers amis, je suis ravi de vous accompagner pendant près d'une heure pour un nouveau numéro d'Afrique, mémoire d'un continent. Parlons aujourd'hui de corruption. Vous en connaissez les termes et ceux dans toutes les langues. Bouffer, par exemple, graisser la patte, chercher un bras long, rendre service. Il n'est pas rare ainsi, quand on tend le micro aux gens dans la rue ou dans les confessions privées, d'entendre que la corruption est bien implantée en Afrique, qu'elle serait répandue, invincible, fondue dans nos pratiques, nos mœurs et nos réflexes. Maladie désignée des dirigeants politiques ou autres, des administrations, de l'économie formelle ou informelle, personne n'y échappe. Cause majeure du discrédit des États, ce phénomène universel semble prendre des tonalités bien africaines. Pourquoi donc ne pas aller tout simplement au-delà des seules idées reçues pour comprendre réellement ce qu'est la corruption? Comment elle s'articule en Afrique? À qui elle profite? Comment elle est valorisée par la morphologie de certains réseaux et circuits familiaux ou culturels? Quelle différence avec le reste du monde? Y a-t-il une pression, par exemple, ou une impunité? Pour y répondre, pas moins de deux disciplines pour nous aider à y voir clair. L'histoire, pour mesurer les évolutions du phénomène, et l'anthropologie, pour comprendre. Et je suis bien heureux de recevoir Jean-Pierre-Olivier de Sardan, qui a consacré un demi-siècle de sa vie à la recherche et à l'Afrique, mais également à l'anthropologie et à l'histoire. Jean-Pierre-Olivier de Sardan, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir traversé la France pour venir nous parler. Vous êtes, je le rappelle à nos auditeurs, directeur de recherche émérite au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Vous êtes également directeur d'études à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, mais également chercheur au LASDEL. C'est très important de le préciser, au Niger, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local. Votre dernier livre paru s'intitule « L'enchevêtrement des crises au Sahel » aux éditions Cartala. Et je ne résiste pas à l'envie de rappeler que vous avez fait votre thèse avec Jean Rouche, avec un jury présidé par Georges Balandier. Que du beau monde. On va aujourd'hui parler de corruption, très simplement pour commencer. Qu'est-ce que la corruption? Existe-t-il une définition universelle? Et qu'est-ce qui ferait la spécificité de l'Afrique?
Plusieurs questions en une.
Oui.
Il y a des définitions, en quelque sorte, académiques de la corruption autour de l'usage d'un poste, l'usage d'une fonction publique pour des intérêts privés, etc., surtout des économistes. Mais je suis assez réticent à en proposer une, justement, parce que toutes les recherches de terrain que nous avons faites au Niger, au Bénin, au Sénégal et dans d'autres pays montre qu'il n'y a aucune frontière précise entre ce qu'on peut appeler corruption et plein d'autres formes de se débrouiller, de clientélisme, de rendre service, etc. Et donc, il faut être un juriste pour avoir une définition extrêmement précise. Et on dit ça, c'est de la corruption, ça, c'en est pas. Dans la vie, c'est pas comme les juristes le disent. Et donc, c'est extrêmement difficile. L'autre point, c'est que, évidemment, comme vous l'avez rappelé, la corruption est universelle. Et simplement, ce qui va changer, ça va être les intensités, ça va être les styles, ça va être les registres, ça va être les périmètres. Mais effectivement, il y a des formes de corruption qui sont plus spécifiques à l'Europe, d'autres plus spécifiques à l'Afrique. L'Afrique, d'ailleurs, se rapprochant pas mal de ce que c'est que la corruption dans les anciens empires soviétiques ou des choses comme ça. Donc, il y a des familles, on pourrait dire, là-dessus. Le troisième problème sur la corruption pour nous, c'est qu'en tant que chercheur, j'aime pas utiliser des mots à charge normative, discriminatoires, etc. Donc, personnellement, je ne suis pas un corruptologue et je n'ai pas envie de passer ma vie à étudier la corruption en tant que telle. Ce qui m'intéresse, ce sont les écarts aux normes officielles, dont, évidemment, ce qu'on peut appeler corruption. Mais en même temps, les gens utilisent, comme vous l'avez dit aussi, le terme corruption, c'est-à-dire, ils disent oui, les gens sont corrompus, etc. Évidemment, on voit tout de suite que c'est la corruption des autres qu'on dénonce et qu'on, par contre, on légitime les pratiques que soi-même sont à la frontière, on va dire.
On ne peut pas tout à fait échapper au terme corruption, d'autant plus que dans la critique qui affleure très très souvent pour dénoncer les pratiques au pouvoir des élites, le mot corruption est très très présent. Mais On va dérouler le fil de l'histoire et puis entrer un peu plus aussi dans l'anthropologie de cette pratique. Vous avez écrit un article, je dois le dire, remarquable, il y a près de 30 ans, que vous avez intitulé « L'économie morale de la corruption ». Et dans cet article, vous évoquez les multiples facteurs qui peuvent favoriser la corruption. On y reviendra en détail tout au long de notre conversation, mais faisons un point historique. Nous sommes dans une émission d'histoire. Vous écrivez que cette économie morale de la corruption reviendra d'ailleurs sur les termes aussi, et principalement post-coloniale, même s'il reste, vous le dites aussi, des points inchangés. Pourquoi faites-vous une distinction entre la période anticoloniale et la période après la colonisation ? Jean-Pierre-Olivier de Sardan.
Parce que la colonisation a marqué quand même une rupture importante et la construction d'un État et d'une administration, disons, moderne, mais en même temps extrêmement particulière. Je veux dire, l'Afrique précoloniale était extrêmement diverse dans toutes ses configurations politiques, depuis les sociétés dites lignagères, les chefferies, les empires, les émirats, les califats, enfin, tout ce qu'on veut. Mais à partir de la colonisation, il y a une unification politique qui se fait sous la forme de l'État colonial. Cet État colonial est complètement dérogatoire par rapport à l'État métropolitain de l'époque. C'est pas du tout, contrairement dit, on n'a pas importé en Afrique une administration dite weberienne. Au contraire, on a importé un régime de l'indigénat.
Weberienne, pour qu'on explique à nos auditeurs.
Oui, weberienne, c'est-à-dire inspirée de la bureaucratie moderne de type prussien, d'ailleurs, voilà. C'était là. On a importé, au contraire, en Afrique, un régime totalement despotique, totalement dérogatoire par rapport à ce qui se passait aux métropoles, qu'on appelait l'indigénat. C'est important parce que c'est là que démarre la corruption, à mon avis. L'indigénat, ça voulait dire un système d'apartheid administratif complet. Ça voulait dire aussi le travail forcé. Ça voulait dire aussi la conscription obligatoire pour aller prélever dans l'armée. Ça voulait dire un impôt qui était prélevé aussi par les colons. Donc toute une série de... et une justice qui était aussi faite par les colons directement. Il y avait confusion des pouvoirs. Et dans ce système-là, qui est la bureaucratie moderne, dont... on a hérité, nos pays ont hérité aux indépendances. Dans ce système-là, l'agent de terrain du despotisme colonial, c'était le chef. C'était le chef administratif. Je dis administratif pour le distinguer de ce qu'on appelait les chefferies précoloniales. C'est une assez grande fusion. Aujourd'hui, tous les chefs se disent traditionnels, mais une grande partie des chefs ne sont pas traditionnels. Ils ont été mis en place par la colonisation française. C'était le rouage vital de la colonisation. Les sujets, en quelque sorte, africains, ne voyaient pas les colons. Ils voyaient le chef. C'était le chef qui prélevait l'impôt. C'était le chef qui envoyait les gens au travail obligatoire. C'était le chef qui envoyait les gens à l'armée.
Etc. Et d'ailleurs, ce chef est un rouage important, d'ailleurs, dans ce que vous avez appelé l'autorité prédatrice. On reviendra justement longuement sur ce passage de votre texte qui est très, très éclairant. Mais évoquons d'abord, dans la série des préalables à notre discussion qu'on est en train de mettre en place, votre texte sur une économie morale de la corruption, elle peut faire vite l'objet de lectures parfois malveillantes ou culturalistes, c'est-à-dire prêter au continent des problèmes qui sont attribués à sa culture. Et on le sait que c'est un procédé raciste assez classique. Vous déjouez formidablement ce piège, cher Jean-Pierre-Olivier de Sardan. Il existe cependant une corruption qui est propre. Vous avez fait un rapprochement entre les pays de l'Union soviétique et l'Afrique. Une corruption qui est propre aux pays en voie de développement et qui est d'ailleurs liée à la crise de l'État. Quelle est-elle, cette corruption ?
Je dirais que c'est un des principaux facteurs de corruption. On reviendra après sur le rôle de la démocratie. Mais les régimes dictatoriaux et les régimes despotiques engendrent en quelque sorte un certain type particulier de corruption. On sait que l'Union soviétique réelle n'avait pas grand-chose à voir avec l'Union soviétique qui était présentée par la propagande de Staline, par exemple. Et donc l'État colonial a été un État aussi despotique, si ce n'est plus, que l'Union soviétique, on peut le dire. Et de ce point de vue-là, j'en reviens à ce que je disais, les agents de la corruption, les premiers agents majeurs de la corruption, ça a été ces chefs soi-disant traditionnels, mais c'est cette chefferie administrative. Parce que si on ne voulait pas aller à l'armée, on donnait quelque chose au chef. Si on ne voulait pas aller au travail forcé, on donnait quelque chose au chef. Si on a voulu à qu'il tranche en votre faveur un litige de champ, on donnait quelque chose au chef. Donc le démarrage de la corruption moderne, c'est le maillon fort, en quelque sorte, le maillon effectif de l'État colonial, c'est-à-dire la chefferie administrative.
La corruption est au cœur des dénonciations des chanteurs africains, et pas que d'ailleurs. Ici, la voix inoxydable du reggae-man sud-africain Lucky Dube, Crime and Corruption. We'll be right back. L'Ekidébé, le zèbre en zoulou qui dénonçait le crime et la corruption, hélas mort assassiné en 2007 par ce crime qu'il dénonçait. Jean-Pierre Olivier de Sardan, vous avez vécu longtemps au Niger, où vous avez mené l'essentiel de vos recherches. Et votre texte est d'ailleurs riche d'un lexique d'une langue locale, le Songhai Zarma, une langue qui est très très répandue, qui porte aussi une société. Pourriez-vous nous faire une brève histoire de la corruption politique dans ce pays ?
J'ai commencé par la colonisation, c'est-à-dire le point de départ de la corruption moderne. D'ailleurs, non seulement les chefs administratifs, mais aussi les commandants de cercle. Juste un petit mot encore pour rappeler ça, c'est que chaque fois qu'il y avait des inspecteurs qui venaient de la métropole, ils étaient sidérés par le niveau de corruption et de privilèges des commandants de cercle. Donc c'était eux-mêmes qui... J'avais vu les archives. Après, ça ne s'est pas arrêté aux indépendances. D'abord parce que c'est le même appareil d'État qui a été hérité. Et puis parce qu'il y a eu différents effets qui l'ont accentué, on va dire. Par exemple, l'aide internationale. C'est un paradoxe peut-être, ça peut apparaître, mais l'aide internationale fonctionne encore jusqu'à maintenant comme une rente. Et si vous voyez au fond ce qu'on dit de la malédiction des ressources pétrolières, le fait qu'un pays comme le Nigeria, le Gabon, plus il y a de pétrole, plus il y a de corruption d'une certaine façon. Mais l'aide aussi fonctionne comme une rente externe différente dont chacun veut avoir sa part. Et l'aide internationale a certainement été aussi un facteur, comment on dirait, corruptogène, d'accentuation de la corruption. La démocratie, alors c'est paradoxal parce que la démocratie n'est pas non plus forcément un régime vertueux en ce terme, pas plus que les dictatures. Elle engendre des formes de corruption différentes, ne serait-ce que parce qu'elles sont basées sur les élections. Mais qui dit élection dit financement de l'élection. Qui dit financement dit il faut trouver des bailleurs de fonds. Bailleurs de fonds égale en général ce qu'on appelle pudiquement les grands opérateurs économiques, les grands commerçants, etc. Et qui donc effectivement financent les élections qui coûtent extrêmement cher chez nous. Vous le savez, c'est par tête d'électeur, c'est plus cher qu'en France, je pense. Peut-être ça fait le niveau américain, je ne sais pas. Il faudrait voir. Mais les élections, évidemment, ce sont des sites de corruption extraordinaires parce que le financeur du parti veut un retour sur investissement. Il faudra après lui donner des marchés, il faudra placer ses protégés, etc. Donc il y a une sorte aussi de forme de corruption très spécifique à la démocratie qui s'est développée après la fin des régimes militaires. Après, on peut voir aussi que la corruption est un argument invoqué tout le temps pour accéder au pouvoir et qu'on oublie sitôt qu'on est accédé au pouvoir. On a, avec les régimes militaires, c'était typique, quand les régimes militaires se sont créés, il y a eu le coup d'État militaire pour remplacer les partis uniques, les militaires se sont levés en disant « il faut lutter contre la corruption ». Une fois arrivés en place, ils ont accentué eux-mêmes la fameuse corruption.
Je reçois aujourd'hui dans Afrique, mémoire d'un continent, l'anthropologue français qui a passé une bonne partie de sa vie au Niger, Jean-Pierre Olivier de Sardan. Je parle avec lui des corruptions en Afrique. L'objet du texte de Jean-Pierre Olivier de Sardan, titré « L'économie morale de la corruption » est résumable ainsi. Expliquer la persistance, voire la banalisation de la corruption. Et pour ce faire, la corruption a besoin de circuits familiaux ou communautaires. Elle a besoin de la force, de l'autorité incarnée par les politiques ou les chefs coutumiers, comme on vient de le voir. Mais surtout, elle bénéficie de représentations qui ne la condamnent pas fermement, d'où le sentiment que cela se passe comme ça, un phénomène sinon béni, presque admis comme un élément de dénouement des relations humaines. J'ai une question à ce propos, cher Jean-Pierre Olivier de Sardan. Vous avancez dans vos textes cette hypothèse. On va en garder quelques-uns. On va se concentrer sur la première. Vous parlez de complexe de corruption, c'est-à-dire de tout un écosystème, népotisme, détournement, abus de pouvoir, l'idée donc de bouffer. Vous avez même un terme en Songhai Zarma, Amiyo Gahai, sa bouche est grande ouverte. Qu'est-ce que le complexe de corruption ?
J'essayais par là de montrer que ce qu'on appelle ordinairement corruption, en fait s'étend à toute une série de phénomènes qui ne sont pas qualifiables d'un point de vue juridique de corruption. Le fait de rendre service, le fait de placer un protégé, le fait de ne pas punir un ancien, même s'il a fait une malversation. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes, et donc je voulais dire, c'était pas du tout dans une perspective dénonciatrice, hein. C'était au contraire pour complexe, je le prenais l'entendre, de complexification, que la corruption a quelque chose d'extrêmement complexe et qui touche bien au-delà de simplement prendre de l'argent, détourner du fric quelque part, etc. Ça va bien au-delà. Donc ça part dans tous les sens. si vous voulez, je me rappelle, j'avais une fois été invité à faire un exposé sur la corruption auprès de l'école de magistrats du Niger. Et en fait, j'ai fait l'exposé, on dit d'accord, non pas sur la corruption chez les autres, mais la corruption chez les magistrats. Une grande partie était d'anciens policiers qui étaient là comme ça. Et j'ai commencé en leur disant, vous savez, nous avons tous été engagés dans des transactions corruptives, moi aussi. Puisque, évidemment, il m'est arrivé de donner 1000 francs à un policier pour ne pas passer 3 heures au poste parce que j'avais pas fait ça. Et donc, je veux dire, voilà, c'est une façon de dire, on a tous un peu quelque chose à voir là-dedans. On est tous par ailleurs, on n'est pas des criminels, on est des gens normaux, etc.
Mais parlons d'une autre thèse qui est au cœur du texte, c'est-à-dire le marchandage, pratique courante, presque indispensable dans beaucoup de sociétés africaines, la négociation, donc l'intermédiaire. Est-ce que ce sont des facteurs ou des agents de facilitation de la corruption? Est-ce que vous auriez des exemples en tête?
Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une très grande monétarisation de la vie sociale. Alors, peut-être c'est ça aussi qui fait que, bon, donner un billet, c'est pas plus grave. Je veux dire, même les rapports amoureux, il y a quelque part des aspects monétaires dans les rapports familiaux. On sort tout le temps un billet de sa poche pour ceci, pour cela. Donc, il est sûr que ça peut, d'une certaine façon, faciliter ce type de choses. Il y a beaucoup de termes, justement, dans le vocabulaire habituel de la corruption qui disent oui, bon, c'est quelque chose rend service ou c'est simplement pour me débrouiller. Bon, on est sans cesse soumis comme ça à des. en quelque sorte, des choses qui sont toujours borderline, oui. Toujours à la limite. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé, par exemple, je reçois des cadeaux des étudiants, ce qui n'est pas normal dans une université française. Oui. Mais je ne sais jamais jusqu'à quelle limite c'est décent ou pas décent de les accepter. Bon. Mais on est tous soumis à ce type de petites questions. On voit bien que derrière, parfois, il y a une envie de faire pencher une décision. Mais parfois, ce n'est pas non plus. Je vais vous donner un exemple quand même, qui sont les juges. Il n'y a aucun juge, je pense, qui refuse un cadeau. Pourtant, c'est interdit par la loi.
Oui.
À Bangui, je me rappelle avoir discuté avec un procureur qui me disait « On apprend aux magistrats que c'est bien de recevoir des cadeaux des justiciables » pour dire à quel point c'est banalisé. Et pourtant, en même temps, ça ne veut pas dire que tous les juges sont achetés. On peut prendre un cadeau et donner quand même raison à celui qui a raison.
Ça reste un équilibre très, très fragile et on ne peut pas échapper, d'ailleurs, aux questions qui fâchent. Et d'ailleurs, on y reviendra parce qu'après les thèses, il y a des logiques qui sont au cœur de la mécanique de la corruption. Elles viennent renforcer tout un écosystème, le manque d'État, de redistribution qui conduisent, par exemple, les populations à des logiques d'entraide. Chercher ainsi un bras long, comme on l'a dit tout à l'heure, une relation utile, un intermédiaire, est un moyen comme un autre de s'en sortir. On va en parler. Je vous propose de faire ici une pause pour prendre la température du monde avec les infos sur RFI. Restez avec nous pour parler par exemple de la question de la honte qui revêt tout un autre sens dans les mécanismes de la corruption. C'est tout un programme. À tout de suite sur RFI. De retour dans Afrique, mémoire d'un continent, je suis en compagnie de Jean-Pierre-Olivier de Sardan, anthropologue émérite, directeur de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et au LASDEL, basé à Niamey, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local. Nous parlons avec lui d'un texte qu'il a écrit il y a près de 30 ans, « L'économie morale de la corruption ». Et on avait commencé d'ailleurs à entrer un peu plus dans le texte. On va aller en profondeur. Cher Jean-Pierre Olivier de Sardan, dans la série des logiques que vous déclinez et qui peuvent être un terreau à la corruption, vous évoquez la logique de l'autorité prédatrice. Vous avez parlé des chefs tout à l'heure. Vous expliquez d'ailleurs que s'agissant d'elle, on peut remonter à la période anticoloniale. Quelle est cette logique?
C'est le fait que l'accès à des positions de pouvoir est plus importante par les privilèges qu'elle offre que par le salaire. On peut aussi expliquer ça par la construction des États après l'indépendance, où il y a eu une sorte d'ascenseur très fort vers le haut, où il y avait évidemment un manque de cadres, un manque de formateurs. Et en même temps, bon, des finances publiques étaient assez faibles. Donc les salaires représentaient pas grand-chose. Mais par contre, tout ce à quoi permettait d'accéder le pouvoir était extrêmement important. Et c'était, au fond, ces avantages périphériques au pouvoir qui étaient le vrai centre des ambitions et en tout cas de la réalisation de professionnels. Et, mais du coup, ça correspond aussi à accepter les attentes environnantes. Je me rappelle un ami qui me racontait, sénégalais, qui me racontait qu'il avait assisté quand il était petit à un cousin qui venait d'être nommé ministre. Et la famille, à l'époque, l'avait réuni en disant « il ne faut pas que tu nous fasses honte, il faut que tu te comportes bien ». Et il me disait « aujourd'hui, plus personne ne dirait ça ». Parce qu'au contraire, c'est l'inverse qu'on attend. On attend que maintenant que tu es au pouvoir, on doit nous aussi en bénéficier.
Oui. Et bon, on y reviendra. Il y a quelque chose qui est indissociable aussi de cette autorité prédatrice, la question du patrimonialisme. Donc le patrimoine important dont on dispose quand on est dans ces postes de responsabilité ou quand on a justement ce pouvoir très très fort. Est-ce que c'est la pression d'une certaine manière de la communauté qui conduit d'une certaine manière à abuser du pouvoir ou y a-t-il des dispositions dans le pouvoir lui-même qui peuvent faire prendre ces largesses? Jean-Pierre-Olivier de Sardan.
Comme d'habitude, il y a plusieurs raisons. Il n'y a jamais une seule raison à quoi que ce soit dans le monde social. C'est certainement un peu des deux. Il y a bien sûr des pressions. Là aussi, je peux vous citer un jeune juge qui vient d'arriver dans un village reculé comme affecté. Et il me raconte que 3 jours après, il reçoit un opérateur économique qui lui amène un congélateur, ce qui était un objet extrêmement... Et il lui dit, c'est un cadeau de bienvenue. Il me dit, je sais bien que derrière ça, il veut enchaîner avec moi des choses... Mais il me dit, mais moi, si je refuse, ma femme va divorcer. Elle va repartir, je serai fou. Donc, il y a des sortes de pressions comme ça. Mais il y a aussi le fait que le pouvoir est perçu quand même largement comme un lieu d'enrichissement. Vous vous rappelez ce fameux roman de H.E.B. qui s'appelle Man of the People, le démagogue.
Que vous citez dans votre article.
Oui, qui remonte remarquablement tout ce mécanisme où plus on s'approche du pouvoir, plus on est pris dedans et plus on devient comme les autres, alors quand même bien même qu'au début on voulait être un réformateur.
Mais qu'est-ce qu'on risque justement dans cette logique d'accumulation et de redistribution, on parle dans des termes d'ailleurs très très vertueux, qu'est-ce qu'on risque si on dit non à ceux qui demandent ou à ceux qui attendent?
Il n'y a jamais de position absolue, etc. Mais je pense que ceux qui ont essayé de se... Il y en a, on en connaît tous, des hauts fonctionnaires, des ministres qui ont essayé, disons, d'aller un peu à contre-courant de ce système. L'expérience montre qu'ils n'ont pas duré très longtemps à leur poste.
Mais pourquoi?
Donc, parce que, grosso modo, ils sont trop dissemblables, ils menacent un peu. C'est un monde où l'expression « tout le monde se tient par la barbichette ». Si quelqu'un ne joue pas le jeu, il menace un peu le système. Et puis, il y a la peur aussi. Moi, je connais des gens, ministres, qui disent « moi, j'aurais bien voulu, mais j'avais trop peur. Je sais que si je fais ça, il peut m'arriver des ennuis ».
Mais peur de qui?
Ah, peur de la répression. Peur de la prison. Vous savez, à l'intérieur des régimes que l'on a vus, que ce soit les régimes d'ailleurs démocratiques ou dits démocratiques ou militaires, le passage par la casse-prison chez les responsables politiques est quand même extrêmement fréquent. Regardez par exemple la manipulation de la lutte contre la corruption au Cameroun, qui est un moyen de règlement de comptes politiques. Ça n'a rien à voir avec le fait que si le gars est plus ou moins corrompu, même pas. Celui qui est depuis 20 ans en prison, il est juste accusé de complicité intellectuelle, ce qui est vraiment loin, parce qu'on déplaît au souverain et donc du coup on se retrouve là où il ne faut pas.
Et la contestation peut être vive, peut être franche du collier. Valsiero ne passe pas par 4 chemins d'ailleurs, le chanteur, ça tombe bien, camerounais, pour prendre en grippe la corruption. Un texte sans détour.
Yes. Depuis l'antre du Master of the Game à YDE, siège des institutions, Valsiero, Faucon, connexion. Yes, des patriotes en mission contre la corruption. Et ça, tu le fais, mais ça, à l'oreille. Un état corrompu n'a aucune chance de s'en sortir. Je commencerai par une déclaration forte pour pas mentir. La corruption, c'est le cancer de l'économie. C'est comme pour dire qu'on n'est pas loin de l'apocalypse. De la mort assurée, une jeunesse asphyxiée, un pays prêt à péter, une bombe prête à tuer. Être classé numéro 1 n'est pas une qualité, c'est plutôt une honte et on est tous concernés. Je ne veux pas citer ces hommes car ces hommes se reconnaissent, mais je veux interpeller l'homme pour que l'homme se reconnaisse. La corruption fout la merde même dans la musique, la création fout le camp, y a trop de piraterie. Elle ne nous sert pas, elle sert une minorité, elle tue l'amour pour le travail et prend la facilité. Elle élève les feignants et tue ceux qui peuvent bosser.
BFF favorise le vol, la totale impunité. La corruption c'est le poison de la société. Elle paralyse les hommes, inhibe toute volonté. Elle fait de nous des marionnettes sans aucune intégrité. Elle tue en nous la morale, le sens de la vérité. La corruption c'est le cancer de l'économie. Faut qu'on fasse bloc, qu'on dise non pour notre pays. Les jeunes ont plaid dans nos marres de ces tragédies. La corruption c'est la mort en suicide collectif. La corruption c'est le cancer de l'économie. Faut qu'on fasse bloc, qu'on dise non pour notre pays. Les jeunes ont plaid dans nos marres de ces tragédies. La corruption c'est la mort en suicide collectif.
La rage de Valsero et de son compère pour cette chanson Faucon, le lion indomptable entre Marseille et Yaoundé. On a entendu ces termes très très verts donc, du rappeur. Parlons, cher Jean-Pierre-Olivier de Sardin, de la logique de cadeau qui est aussi au cœur de votre texte. Dans les sociétés agropastorales, par exemple, le don est important, matériel ou symbolique. Vous expliquez cependant qu'il y a une donnée qui change fondamentalement les choses, c'est la monétarisation. Le cadeau est devenu un devoir moral et surtout un cadeau en argent. Comment l'institutionnalisation de l'argent dans les rapports est devenue un acteur majeur de la corruption ?
D'abord, l'argent facilite évidemment beaucoup les choses. Si vous faites des cadeaux en nature, ça devient beaucoup plus compliqué, tandis que immédiatement, l'argent est disponible quand vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, comme on dit. Ça fait cette sorte de facilité, de fluidité, en quelque sorte, dans la relation quotidienne. Le cadeau en argent est quelque chose de totalement banalisé, on est d'accord. Un neveu passe, vous lui donnez de l'argent. Un ancien portier de votre travail passe, vous lui donnez de l'argent. Maintenant, cet argent aussi peut fonctionner comme un cadeau forcé. Et c'est là que devient l'ambiguïté. Là aussi, je pense qu'un exemple vaut mieux qu'une longue démonstration. Les paysans nous disaient souvent, dans les entretiens, tous ces agents des projets, tous ces agents, on est obligé de leur donner de l'argent parce qu'on sait que si on ne donne pas de l'argent, ils ne vont pas faire attention à nous, ils ne vont pas amener le projet, ils ne vont pas nous amener ce qu'on doit. Et quand nous parlions avec ces mêmes agents, ils disaient « Oui, les paysans sont gentils, ils nous donnent des trucs, mais c'est traditionnel, ça fait partie des règles d'hospitalité. » Donc on voit bien quand même quelque chose. Oui, il y avait à fond des règles d'hospitalité où on donnait quelque chose à l'un. Mais c'est devenu aussi dans la perception même de ceux qui sont en bas, qui sont les obligés, c'est devenu une ponction. C'est la même chose à l'hôpital. Si vous ne donnez pas quelque chose à l'infirmier avant ou au brancardier, on pense qu'il ne va pas s'occuper bien de votre malade. On n'est plus dans le système dit traditionnel. On est dans autre chose. Alors, ce n'est pas de l'extorsion, mais on est là aussi dans cette zone grise.
Mais pourquoi ce n'est pas de l'extorsion ? Parce que si on devait être dans un registre un peu plus moral, où la vertu serait mise en avant, comment qualifierait-on ces procédés-là qui peuvent gangréner l'équilibre et qui peuvent justement, si on se fie à ces paroles encore de Valsero, qui peuvent encore une fois fragiliser nos équilibres politiques?
C'est que toute la subtilité de ce système-là, c'est que rien n'est dit extrêmement clairement. Autrement dit, l'infirmier qui prendra l'argent pour votre malade, si vous ne lui donnez pas et que vous lui reprochez de faire ça, il va dire « mais moi, je les traite quand même de la même façon ». C'est une sorte d'incitation, ou c'est un pourboire donné à l'avance. On est là aussi dans une zone extrêmement fluide. Donc c'est très difficile de dire « oui, ben, c'est de l'extorsion ». Il y a des cas d'extorsion. Lorsque le policier vous prend 100 francs à tous les passagers d'un bus, il y a des formes de corruption qui sont de l'extorsion. On a trouvé quand même toute une série de formes très très diverses dans la corruption. L'extorsion n'est qu'une des manifestations. Mais le même policier qui va faire l'extorsion, après il va devenir dans la mendicité. Le même va vous dire « pardon, donnez-moi l'argent de la bière » alors que là, il va pas vous menacer de quoi que ce soit, il est dans le quémandage. Vous voyez, on bascule vite d'un registre à l'autre.
Avec la corruption, les repères moraux, on le voit, changent, évoluent. Ce qui est moralement condamné comme le vol, la prévarication, le détournement, devient pourtant et souvent ancré parfois dans des habitudes comme ça, sans qu'il n'y ait de contrat forcément. Prenons une notion, celle de la honte. Elle change ainsi de registre et de qualification. La honte qui désigne le sentiment de tort, celui de ne pas honorer une vertu morale. Elle bascule dans tout à fait autre chose en vous lisant. La honte devient ainsi le fait de ne pas satisfaire les siens, de les abandonner et de potentiellement les trahir. L'important n'est plus, du coup, la probité vis-à-vis de tous, mais son image vis-à-vis des siens. Grand retournement qui est pour le coup cocasse et inédit. Jean-Pierre Olivier de Sardan, c'est une partie qui est très importante dans votre texte, cette question de la honte. Je voudrais qu'on parle d'exemples précis. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Comment avez-vous observé cette société nigérienne qui vous sert de socle?
La honte, il faut aussi bien s'entendre sur ce que ça représente. Ça représente essentiellement le regard des autres. Oui. La honte, c'est le fait de déroger aux attentes qu'ont les autres. Et c'est un sentiment très, très fondamental. En fait, j'ai découvert il y a très, très longtemps, quand je vivais dans des villages sans rail, donc au nord du Niger, et que je m'étais installé, je m'étais heurté en quelque sorte à la question des traces de l'esclavage. De l'esclavage local, dit l'esclavage de proximité, l'esclavage dit domestique. Et la grande définition qu'on me donnait, l'esclave, c'est celui qui n'a pas honte, alors que l'aristocrate a honte. Alors j'étais un peu étonné par ça, donc j'ai un peu travaillé là-dessus. C'était le moment où j'avais commencé à apprendre la langue. Et donc la honte était vraiment quelque chose qui revenait de façon courante. Pas que dans les histoires de corruption, hein, dans plein de choses, il faut éviter la honte. Et les anciens esclaves, d'ailleurs, disant « maintenant, nous aussi, nous faisons attention à la honte ». Ça, c'était la porte d'entrée, mais évidemment, tout le monde est soumis à cette question de la honte. Et donc, après, sur la façon dont ça fonctionne, je pense que c'est très différent dans la petite corruption et dans la grande. Parce que la petite corruption, c'est celle que nous avons étudiée. C'est la petite corruption du quotidien. C'est celle qui, bon, en même temps, c'est pas la même chose que la très grande corruption, celle des grands opérateurs économiques, celle des politiques. On est dans un autre registre, mais pour nous, anthropologues, c'est beaucoup plus difficile à étudier. Moi, je peux étudier celle des policiers, des infirmiers, des greffiers, il n'y a pas de problème. Celle des autres, je ne suis pas capable, ça demande beaucoup plus. Et alors là, ça devient autre chose. Parce que justement, l'une des choses que l'on reproche aux politiciens, c'est de ne pas avoir honte. C'est-à-dire, ils sont démesurés dans leur recherche de gains, dans leur cupidité, dans leur accumulation, etc. Oui. Alors que nous, en bas, nous, on sait se limiter. Il ne faut pas exagérer. Il y a toujours il ne faut pas exagérer. On peut prendre un petit peu, on voit bien qu'on est dans les arrangements du quotidien. Ça, c'est cette petite corruption qu'on a étudiée, qui par ailleurs est quand même critiquée par certains. Ceux qui n'ont pas accès à ces moyens le font. Mais ce n'est pas du tout la même chose que ce que l'on reproche aux dirigeants, ce qui est à l'origine d'ailleurs de la crise de la démocratie aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'il y a tout de même des motifs d'espoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait, au Niger en particulier, pour essayer de contrer cette corruption? Est-ce qu'il y a des initiatives qu'elles émanent soit justement de l'institution politique ou alors aussi des autorités coutumières ou communautaires? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait?
Il y a des choses, mais dire qu'elles aboutissent à des succès serait un peu exagéré. Il y avait une haute autorité au Niger, comme dans tous les pays, il y a souvent des hautes autorités de lutte contre la corruption. Ceux que j'ai connus là-bas essayaient effectivement, ils ont réussi à empêcher des fraudes pour les examens, ils ont réussi à... On aurait pu parler des examens qui se vendent aussi, des choses comme ça.
Oui, oui. Le spectre est très large.
Oh là là, oui. Donc il y a eu des tentatives, mais dire qu'elles ont inversé, c'est extrêmement difficile. On a peu d'exemples historiques de marche arrière. Parce qu'une fois que la corruption est installée, c'est une sorte de reproduction à la...
Mais est-ce que les populations se complaisent dedans?
Non, je pense que tout le monde est mal à l'aise avec ça. Tout le monde est mal à l'aise, mais personne ne sait comment en sortir. C'est ça. Donc, c'est ce truc qu'on reproche aux autres et soi-même, on le fait. C'est un truc qui met mal à l'aise tout le monde et personne ne sait vraiment comment en sortir. Et puis, le gros problème, c'est l'image, c'est l'exemple donné d'en haut. Le fameux proverbe, le poisson pourri par la tête. Et donc, de fait, pourquoi moi, je ferais plus attention si en haut, ils sont en train de s'engraisser, etc., etc.
Le manque d'exemplarité.
Exactement. L'exemplarité qui devrait venir d'en haut. Alors, on a certains cas. On a certains cas de tentatives d'un ministre, mais moi, tel ministre qui a essayé de faire le ménage dans son machin, il n'a pas duré 2 ans. Après, il y en a eu un autre et c'est reparti comme ça. Et je connais des hauts fonctionnaires qui sont intègres, enfin, je veux dire, et qui essayent vraiment. En général, ils n'ont pas les moyens d'aller loin parce qu'il n'y a pas une vraie volonté politique. Et sans volonté politique en haut, c'est difficile. Hein.
Et une des offres, justement, pour contrer cette corruption de façon radicale, vous finissez d'ailleurs votre texte par une hypothèse qui fait sursauter les mouvements puritains ou religieux, par exemple. À l'époque, vous l'avez écrit il y a 30 ans, donc il était question de ces mouvements puritains. Aujourd'hui, on a une offre qui est portée par les djihadistes. Et d'ailleurs, une des données qui est inquantifiable, c'est de savoir quel est le degré d'adhésion des populations à l'offre politique des djihadistes. Est-ce que vous feriez la même conclusion aujourd'hui? Il y a même parfois des accents un peu prophétiques dans votre texte.
Moi, j'espère que pas trop, parce que je ne suis pas du tout un prophète. Oui, alors ça, c'est un vrai... On va le dire autrement, aujourd'hui, la poussée salafiste, on va dire pas djihadiste, hein, je parle la théologie pacifique, on va dire salafiste, que ce soit Izala au Niger, Ibadou au Sénégal, etc., c'est en pleine progression. Et elle s'alimente de la critique du régime corrompu. Ça s'alimentait de la critique du régime corrompu des démocraties. D'ailleurs, c'est un paradoxe, puisque c'est les démocraties qui ont permis aux prêcheurs de rue de se multiplier partout. Mais ça... Alors oui, effectivement, il propose un discours alternatif radical avec l'État islamique pour les uns. Alors si on part avec les djihadistes, avec le califat pour les autres, on aura un monde parfait qui sera débarrassé de la corruption, etc. C'est leur discours. Donc ce discours attire. Alors évidemment, pour le moment, on n'a pas d'exemple. Enfin, la façon dont les djihadistes se comportent dans les zones qu'ils contrôlent permet pas de dire qu'ils sont vraiment en train de lutter contre la corruption. Ils pillent le bétail des uns, sans parler des massacres. Pour le reste, on a évidemment, comme ils n'ont pas été dans des positions d'accéder au pouvoir, on peut pas voir. L'exemple historique montre pourtant que chaque fois que d'autres arrivent au pouvoir et qu'ils dénoncent la corruption, ils la pratiquent après. On se retrouve avec le problème de l'alliance éventuelle entre les salafistes et les régimes militaires actuels, qui se dessinent dans certains pays, pas dans tous.
Est-ce que ce texte que vous avez écrit il y a 30 ans, si vous devez l'écrire aujourd'hui, vous reprendriez les mêmes termes? Quel est le changement fondamental à l'échelle de l'histoire qui s'est produit?
Le changement fondamental, c'est l'échec de la démocratie. Pas la démocratie comme système, mais l'échec de la façon dont la démocratie a été utilisée par les élites, pour être plus rigoureux. C'est pas la démocratie, c'est jamais qu'un système. Voilà. Donc je pense que l'élément fondamental, c'est ça. C'est l'échec aussi de l'industrie occidentale du développement, qui n'a absolument pas abouti. Donc ça fait déjà deux gros échecs, qui d'ailleurs font que les régimes militaires actuels sont populaires parce qu'ils surfent sur ces formes de rejet.
Merci infiniment, cher Jean-Pierre-Olivier de Sardan, d'avoir passé près d'une heure avec nous pour parler de la corruption. Je rappelle que vous êtes anthropologue et votre dernier ouvrage qui évoque justement cette question du développement justement et des échecs, c'est La Revanche des contextes aux éditions Cartala. Merci beaucoup. Les chanteurs, les historiens, les anthropologues n'ont cessé d'alerter sur les dangers de la corruption dans la crise multidimensionnelle que connaissent beaucoup de pays du Sahel. Un élément revient souvent comme un dénominateur commun. Il s'agit de la corruption qui creuse les inégalités et dépouille les États de leurs ressources pour la justice sociale. L'histoire que nous venons de dérouler avec Jean-Pierre-Olivier de Sardan le montre. L'importance de questionner nos mythes, nos traditions, nos habitudes pour des futurs désirables, afin de contrer cette persistante éclipse qui continue à jeter son ombre sur une histoire africaine qu'il est temps de révisiter pour mieux se l'approprier. Afrique, mémoire d'un continent, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé pour la préparation de cette émission. Delphine Michaud à la coordination, Taguim Fatraoré à la réalisation. Vous retrouverez bien sûr l'émission en podcast sur RFI. .fr sur l'application RFI Pure Radio. La semaine prochaine, vous retrouverez Penaï Traoré.